Sud Radio, vos animaux à l'état sauvage.
Bonjour Pierre Rigaud, merci d'être avec nous ce matin pour nous faire découvrir un rapace qui est devenu citadin, le faucon pèlerin.
Bonjour Natacha, et ouais, c'est un oiseau que les ornithologues adorent, mais pas seulement, parce que c'est un oiseau vraiment extraordinaire, je trouve.
Oui, c'est un oiseau assez incroyable sur plein d'aspects. Alors, les populations de faucons pèlerins avaient très largement diminué après la Seconde Guerre mondiale. Heureusement, cet oiseau est protégé quoi depuis les années 70, c'est à peu près ça ?
C'est ça, la grande loi sur la protection de la nature, dans les années 70, qui a protégé tous les rapaces, y compris donc ce faucon qui était en voie d'extinction à l'époque.
Alors, je me permets un jeu de mots. Ça lui a permis de reprendre des plumes de la bête, n'est-ce pas? Ouais, bon, je l'avais préparé celui-ci, Pierre.
Non,
je savais qu'il vous ferait rire.
Le travail se voit à l'antenne.
Bon, comment on le reconnaît, ce faucon pèlerin?
Alors c'est un rapace, comme tous les rapaces, avec un bec crochu, et comme c'est un faucon de taille moyenne, c'est-à-dire qu'il fait à peine 50 cm de long, donc c'est pas très grand, mais il a des couleurs qui sont assez frappantes. Il a des ailes très pointues d'abord, comme tous les faucons. Il a une couleur plutôt gris-ardoisée, alors plus foncée sur le dessus, gris-ardoise, et puis striée de blanc et de noir sur la poitrine, avec une tête noire et un petit capuchon qui forme des sortes de moustaches. Et puis le pourtour des yeux et du bec est jaune. Donc en fait, il est trois couleurs, blanc, jaune, noir, et gris, quatre couleurs donc.
Donc assez facilement reconnaissable. Il a aussi un cri qu'on identifie relativement bien quand on est un peu connaisseur des oiseaux.
Oui, mais il faut avoir l'oreille quand même, parce que les rapaces ont des cris qui se ressemblent beaucoup entre eux. Alors les faucons pèlerins, c'est vrai qu'on les reconnaît assez bien visuellement, mais encore faut-il les voir, parce qu'ils sont assez discrets. Ils sont souvent très hauts en altitude, ils nichent haut au-dessus du sol, ils sont assez loin des humains tout en étant proches, ils n'aiment pas trop se faire voir, contrairement par exemple aux faucons cresserelles, que je pense à peu près tout le monde a déjà vu, tant à la ville qu'à la campagne, ces petits faucons cresserelles qui font du surplace au bord des routes dans les campagnes, pour scruter le sol et chercher des campagnols dont ils se nourrissent. Lui, le faucon pèlerin, il chasse ses proies qui sont des oiseaux essentiellement, et il les capture en hauteur en les poursuivant en plein vol. Et après, il va les manger en se perchant à nouveau en altitude. Donc, en fait, faut avoir les yeux en l'air quand on s'intéresse au faucon pèlerin.
Alors, puisque vous parlez de ses activités de chasseur, c'est vraiment un redoutable chasseur.
Oui, on dit souvent que c'est l'animal le plus rapide du monde. Bon, il semblerait que ce soit le cas, avec des piquets fulgurants qui dépasseraient, c'est même sûr qu'il dépasse les 300 km/h.
Ouais.
Alors, c'est pas tous les jours qu'il fait ses
performances. Non, c'est en piqué, c'est dans des circonstances quand même assez particulières.
Oui, voilà. Alors, il capture toujours ses proies en vol à l'issue d'une poursuite qui est très rapide. Hein, et en effet, ses piquets, il les fait quand il prend un peu de hauteur pour être au-dessus de sa proie et qu'il va s'approcher en piquant dessus, comme ça, sur une longue distance et en repliant les ailes. Alors, c'est vrai que quand on a la chance de voir ça, c'est pas facile à voir parce que ça se passe très haut. Ça ressemble un peu à un obus qui file comme ça en oblique. Et ensuite, il percute ou il attrape sa proie, qui est un oiseau de taille de la mésange à la corneille, et c'est un mode de chasse qui fait qu'il est assez spécialisé et qu'il lui faut de l'espace, et c'est pour ça qu'il va pas aller faire des virevoltes ou des tournicotis, c'est pas le bon mot, mais comme font d'autres rapaces, comme les éperviers par exemple, qui poursuivent les passereaux entre les arbres. Lui, il faut de l'espace pour pouvoir déployer sa capacité particulière, qui est cette capture à grande vitesse.
Alors, parmi les autres particularités de cet oiseau, on le trouve quand même dans beaucoup d'endroits du monde.
Oui, il a une large répartition dans le monde, tant en Amérique du Nord que sur le continent européen. Mais la belle histoire qui avait très mal commencé, c'est que cet oiseau qui était assez répandu, cette espèce assez répandue, est vraiment passé proche de l'extinction dans beaucoup de régions du monde. Alors pour différentes raisons, essentiellement parce que les humains l'ont volontairement détruit, on le dénichait, c'était considéré comme des oiseaux nuisibles parce que les rapaces faisaient peur. Déniché aussi pour la fauconnerie et puis les pesticides là-dessus qui empoisonnait ses proies et qui empêchait sa reproduction. Donc on a vraiment, cet oiseau, cette espèce a vraiment frôlé l'extinction. Mais là où l'histoire est très belle, je trouve, c'est que grâce à la protection par la loi et grâce à plein de gens, des passionnés, des associations de protection de la nature depuis les années 70, c'est pas nouveau, eh ben, on fait en sorte que peu à peu ces oiseaux reviennent. Et alors, il n'y en a pas partout en France.
Oui, alors justement, où le voit-on en France? Quelles sont les régions concernées?
Alors comme cet oiseau niche à l'origine plutôt dans les falaises, c'est plutôt les régions où il y a des falaises, c'est-à-dire les régions de montagne, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central, les côtes normandes, bretonnes. Et de plus en plus, ce que je trouve assez formidable, c'est que les faucons pèlerins arrivent à s'adapter à la vie en ville, parce qu'ils retrouvent en fait dans les monuments, les constructions urbaines et les immeubles, tout simplement les tours artificielles, des milieux qui ressemblent, qui leur rappellent un petit peu ces falaises d'origine où ils pouvaient nicher. Et donc maintenant, on trouve des faucons pèlerins qui nichent dans des grandes villes, Strasbourg, même près de Dunkerque, à Metz, enfin Reims, Périgueux. Il y a pas mal de villes en France, et même en région parisienne, on peut maintenant voir des faucons pèlerins. Alors si on les cherche, parce que la plupart du temps, ils sont cachés.
Ils sont plutôt solitaires d'ailleurs, ou comment vivent-ils ?
Alors en hiver, plutôt solitaires et dispersés, et puis au printemps, même à la fin de l'hiver, en fait, les couples se forment et les couples élèvent leurs petits qui en ce moment s'envolent. Donc là, en ce moment, c'est l'époque où on peut voir et entendre des nichés de faucons pèlerins, de jeunes faucons pèlerins qui prennent leur premier envol. Premier envol, franchement, pas évident, parce que les risques sont grands quand on se lance pour la première fois depuis...
Surtout quand on est en ville, en plus, ça n'aide pas.
En ville. Ah non, mais ça n'aide pas, c'est franchement compliqué, parce que... Alors, il y a beaucoup de nichoirs qui ont été installés par des associations de protection de la nature dans différentes agglomérations de France. Alors, les nichoirs, c'est très simple, c'est une sorte de caisse ouverte, une petite plateforme qui est collée sur une tour en hauteur ou sur une cathédrale, et les faucons font un nid très très sommaire, parce que, en fait, la femelle pond simplement un œuf comme ça sur des graviers, sur rien du tout. Mm-hmm. Et les petits, quand ils s'élancent, il faut faire pour la première fois de leur vie un vol non seulement vertigineux parce qu'ils partent de très haut, mais en plus avec beaucoup d'obstacles en ville, ce qui n'est pas le cas dans la nature, parce que quand même, quand on est sur la falaise, autour c'est dégagé. En ville, il y a d'autres immeubles en face, il y a des baies vitrées, il y a pas mal d'agitation, et c'est pour ça que ça ne marche pas à tous les coups, mais quand même, la plupart s'en sortent, et c'est comme ça qu'on peut voir tout d'un coup sur un balcon, c'est arrivé à des gens, je trouve ça assez drôle, des gens qui tout d'un coup ont découvert en ouvrant leur rideau en ville, dans un appartement, que s'il y avait sur le balcon, non pas un pigeon, mais un faucon pèlerin, par exemple un jeune faucon pèlerin qui se pose là un petit peu perdu pour la première fois, et puis qui va ensuite...
Au bout de combien de semaines les petits quittent le nid ?
Un bon mois d'incubation avec la femelle essentiellement, et parfois relayée parfois par le mâle pour couver les œufs. Puis ensuite les jeunes, après un mois, ça grandit très vite. Et vous voyez, ces oiseaux-là, ça pousse très très vite. Et ce qui est formidable, c'est que maintenant, enfin depuis pas mal d'années, il y a des caméras, des webcams, on peut tout voir ça sur Internet, qui sont mises sur certains nichoirs en ville. Et on peut voir comme ça l'évolution jour par jour, minute par minute des poussins. Mmh. Et là, on voit que ça pousse très très vite.
Très très vite.
Avant de pouvoir faire ce premier envol, et ensuite c'est poursuite vertigineuse, puisqu'il faut bien dire que les faucons pèlerins justement en ville se nourrissent essentiellement de pigeons.
Comment est-ce qu'on explique le fait que les faucons aient trouvé finalement dans nos grandes villes une sorte de refuge ?
Ah, il y a une part d'inexplicable, parce qu'il y a des animaux, vous savez bien, qui arrivent à s'adapter à nous, et puis d'autres pas du tout. Mais les faucons pèlerins, en fait, ils demandent pas grand chose. Alors ils ont des conditions assez exigeantes sur certains points. Il faut pouvoir nicher en hauteur et avoir de l'espace. Mais à partir de là, du moment qu'il y a à manger pour eux, c'est-à-dire beaucoup d'oiseaux, il se trouve qu'en ville, il y a beaucoup d'oiseaux. Même si c'est pas forcément toujours très diversifié, évidemment des pigeons. Et le fait que les humains, des associations, les ont aidés en faisant ces nichoirs, en fait. Parce que sur un gratte-ciel avec des baies vitrées, c'est pas facile de trouver de quoi installer son nid, mais il suffit de mettre un petit nichoir tout simple accroché au béton et les faucons trouvent ici leur place. Donc on les a un petit peu aidés, mais pas plus que ça. Il n'y a pas eu de réintroduction. On entend parfois dire qu'il y a eu des réintroductions pour éliminer les pigeons, des réintroductions de faucons. Non, on a simplement mis, les passionnés ont simplement mis quelques nichoirs. Moi, je trouve ça vraiment formidable, en fait, que cet animal qui était, jusqu'à il y a encore quelques décennies ou quelques années, le symbole de l'animal sauvage menacé en déclin et qui périclite, et qui était vraiment... qui vivaient uniquement dans des endroits inaccessibles et reculés, et que les ornithologues essayaient d'observer de loin avec des longues vues, parfois avec beaucoup de marches, d'approches, etc. Maintenant, ces oiseaux...
Depuis leur balcon.
Depuis le balcon. Ils investissent le cœur des villes. Moi, c'est formidable.
Est-ce qu'on a une idée, Pierre Rigaud, de la population de faucons pèlerins en France ? Est-ce qu'il y a une sorte de recensement qui a pu être fait, ou en tout cas une évaluation, une estimation ?
On l'estime à un bon millier, peut-être un peu moins de 2000 couples, parce qu'on compte en couples en général pour ces oiseaux-là. Alors, est-ce que c'est beaucoup, pas beaucoup? C'est très très encourageant, parce qu'à la pire époque, il y en avait à peine plus d'une centaine de couples. Donc, je trouve que bon, c'est très positif, mais rassurons tout de suite les personnes qui pourraient craindre une éventuelle pullulation. Ça n'arrive pas, hein, pour des animaux prédateurs comme ça. On n'en est pas là. Et quand vous avez, disons, dans une ville de taille, de petite taille ou de taille moyenne, vous allez avoir au maximum un ou deux couples de faucons pèlerins, et ils vont comme ça régner sur la ville, disons, en tout cas faire leur grand vol au-dessus des immeubles. C'est plutôt encourageant, je trouve.
Et aujourd'hui, donc, ces oiseaux sont bien évidemment protégés. Y a-t-il encore des menaces qui pourraient mettre en péril ces populations d'oiseaux ?
Oui, alors en ville, c'est les baies vitrées, c'est toutes sortes de dangers inhérents à la ville, et puis les dérangements parfois. Alors en falaise, il faut dire qu'il y a quand même, en falaise naturelle, encore parfois des dérangements de personnes un peu pas très précautionneuses qui veulent essayer de s'approcher trop près pour prendre des photos par exemple, mais surtout les grimpeurs. Alors pas tous les grimpeurs tout le temps bien sûr, mais il y a parfois des problèmes quand les faucons voient évidemment un grimpeur arriver près de leur nid. Bah, ça peut faire rater la nidification, et c'est pour ça qu'il y a des associations de protection de la nature, je pense notamment à la Ligue pour la protection des oiseaux et d'autres aussi, qui font un travail super de concertation entre les grimpeurs et les oiseaux, si on peut dire. C'est-à-dire que simplement, en fait, on demande aux grimpeurs de ne pas grimper pendant une certaine période à un certain endroit.
C'est le partage du territoire.
Exactement, et souvent ça se passe très bien d'ailleurs.
Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour ceux qui, parmi nos auditeurs, souhaiteraient aller observer des faucons pèlerins ? Comment faut-il s'y prendre ?
Alors, soit on veut aller dans la nature tout seul et on prend ses jumelles et on passe beaucoup de temps, parce que c'est compliqué, parce que même pour les ornithologues, quand on ne connaît pas les sites où nichent ces oiseaux, il faut passer beaucoup de temps à observer ce qui se passe dans le ciel, ça prend du temps. Donc ce qu'on peut se conseiller, c'est plutôt de contacter une association de protection de la nature locale pour, soit observer, mais l'observation se fera toujours de loin, surtout pour ne pas déranger.
Bien sûr.
Et éventuellement, pour les plus motivés, de participer à des suivis, puisque les suivis nécessitent surtout d'être patient pour regarder ce qui se passe, essayer de parfois même, en tant que bénévole, intervenir dans la concertation entre justement, quand il y a en ville par exemple, avec les responsables de la gestion des bâtiments, en fait, pour que la cohabitation se passe au mieux, par exemple. Donc il y a moyen simplement, en contactant les associations de protection de la nature les plus proches de chez vous.
Eh bien, merci beaucoup Pierre Rigaud, et c'est toujours un plaisir non seulement de vous entendre, mais en plus de vous entendre pour nous raconter des bonnes nouvelles de la nature.